Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips.
Santé, Mario!
Ouais, je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu.
You cannot be serious!
Le numéro 1 mondial, l'Espagnol, Rafael Nadal.
Les plus grands champions de tennis comme Borg ou Villas sont à leur côté des éminences grises qui leur servent à la fois de manager, d'entraîneur. Eh bien, Yannick Noah, le champion français, vient lui aussi de décider de s'adjoindre à un entraîneur particulier, l'ancien tennisman français Hagelauer. Alain Toler a demandé à Yannick Noah les raisons de cette décision.
J'aurais pu éventuellement prendre un coach étranger, étant donné que je parle l'anglais, mais enfin c'est difficile d'avoir des contacts plus profonds, car on est obligé de vivre avec son coach pratiquement, on fait toutes les compétitions ensemble, on est amené à partager la même vie pendant pas mal de temps, et je pense qu'il faut bien s'entendre, il faut qu'on puisse bien communiquer, il faut qu'il y ait un dialogue. J'espère que le fait de travailler avec Patrice m'apportera beaucoup sur le plan de l'organisation, de mon planning et surtout de mon entraînement, parce que je me suis aperçu que lors des tournois et lors de mes périodes d'entraînement, je perdais beaucoup de temps, et il est toujours difficile lorsqu'on s'entraîne avec un autre joueur de s'occuper de ses propres problèmes. Lorsqu'on a un entraîneur, c'est beaucoup plus facile, on s'entraîne, on est beaucoup plus concentré sur nos problèmes personnels, et c'est ce qui explique le choix de Patrick.
Le rôle d'un coach n'est absolument pas le rôle d'un gourou, d'un mentor, tout ça.
Éminence grise ?
Non, pas du tout non plus. Non,
les porteurs de raquettes ?
Non plus, surtout pas.
Et en un mot commençant, union libre ou mariage de raison ?
Union libre. Union libre de toute façon.
Salut, c'est Max et bienvenue sur l'épisode 14 du podcast Tennis Légende. Chaque mardi, on vous fait entrer dans les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, de parcours inspirants et d'histoires croustillantes. Avec des épisodes à la cool, on prend le temps de discuter avec un maximum d'acteurs du circuit pro. Alors abonne-toi tout de suite pour être sûr de ne rien rater. Encore un mastodonte du tennis français avec nous cette semaine. On vous propose son parcours pendant cette période de Roland-Garros et vous allez vite comprendre pourquoi. Il est né à Marrakech et a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans, en jouant quasiment tous les jours, mais sans avoir pris de cours. Donc assez exceptionnel pour un joueur qui est devenu pro dans les années 70, 12e joueur français et 190e à son meilleur. Seul coach à ce jour à avoir gagné Roland-Garros depuis la création de l'Air Open, et c'était bien entendu avec Yannick Noah en 83. Les aficionados auront compris qu'il s'agit de Patrice Hagelauer, qui a commencé d'entraîner Yann à ses 17 ans, et leur collaboration aura duré 11 ans. Pas mal donc pour un prof détaché à la FFT, qui est par la suite devenu entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 21 ans. Patrice est entré à la FFT par une toute petite porte, puisqu'il n'y avait pour ainsi dire aucune structure. C'était une époque où seuls deux sports études tennis existaient en France. Directeur technique national en 2019, Hagel a également occupé ce même poste en Angleterre. Pendant notre échange, vous entendrez les noms de Gilles de Kermadec, ancien président de la Fédération Française de Tennis, et de Jean-Claude Massias, ancien DTN de 1996 à 2005. On va ensuite plonger au cœur de la prépa de Yannick Noah pour Roland-Garros 83, et vous comprendrez mieux ce qu'est devenu le fruit d'une bête de travail et de détermination, en totale alchimie avec son entraîneur de l'époque, Patrice Hagelauer. Avant de laisser place à l'épisode, si notre travail te plaît, tu peux devenir une légende dans notre cœur en nous mettant 5 étoiles sur Apple Podcasts et un commentaire sympa. Il nous aide considérablement à faire connaître la chaîne et à tout donner chaque semaine. L'entretien est à retrouver sur la chaîne YouTube, pense également à t'abonner. Place à notre 14e épisode, bonne découverte et bonne écoute à tous.
On peut parler tennis, exact.
Alors, bon bah du coup j'avais tout mis à vous, hein, donc je vais remplacer par tu.
D'accord.
Patrice, tu es né le 5 janvier 48 à Marrakech.
Exact.
Selon ta fiche ATP, tu mesures 1m88 pour 88 kilos. Tu as été joueur de tennis professionnel au milieu des années 70, 190e joueur mondial à ton meilleur en 76 et 12e joueur français. Tu as atteint les 8e à l'Open d'Australie qui se jouait à l'époque en 6 matchs pour la gagne et non pas en 7, a priori. Tu deviens ensuite entraîneur, principalement celui de Yannick Noah pendant 11 ans. Votre collaboration commence alors qu'il n'a que 17 ans et ensemble vous remportez le le titre porte d'Auteuil en 83. Tu es encore le seul coach à avoir gagné Roland-Garros avec un joueur français depuis la création de l'Air Open.
Malheureusement.
Oui, malheureusement, jusqu'au prochain. Tu as été l'entraîneur de l'équipe de France de Coupe Davis pendant 21 ans, ce qui inclut la campagne victorieuse à Lyon en 91 contre les États-Unis. En 99, tu prends la direction du haut niveau masculin et féminin du tennis britannique. En 2002, la Fédé te rappelle pour épauler Guy Forget, alors capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis. En 2006, tu es directeur technique du team Lagardère, puis directeur technique national à la Fédé française en 2009. Aujourd'hui, tu formes à la préparation mentale, tu joues au golf, pas mal a priori, tu es classé combien ?
Non, je suis 16. 16 les bons jours. Ben, je suis 16, mais c'est pas toujours 16, quoi. Loin de là.
Est-ce qu'on peut ajouter dans ce que j'ai pu oublier dans ta présentation, Patrice ?
Oui, tu as peut-être oublié la période entre 84 et 90 où on a développé et créé le tennis club, le country club de Sofia Antipolis. C'était le Sofia Country Club. J'avais donc démarré cette aventure avec un Anglais qui était un Anglais qui avait décidé d'investir dans le tennis, qui s'appelait Monsieur John Moores. Et on avait créé de toutes pièces le Sofia Country Club avec 32 cours où j'avais un tennis étude privé d'une soixantaine de jeunes. Ouais. J'avais un groupe de compétition suivant les périodes de l'année, allait de 10 à 30 joueurs. Et puis, on faisait des stages pendant toutes les vacances. Donc ça a duré 6 ans où j'avais vraiment... une formidable équipe d'entraîneurs pendant cette période. Et je suis retourné à la fédération en 90 parce que ce club a été vendu après pour faire une opération un peu plus commerciale. Quoi. Voilà.
Jusqu'à quel âge t'es resté au Maroc ?
Je suis resté au Maroc jusqu'à 17 ans, jusqu'à l'âge de 17 ans, 16 ans et demi, 17 ans. J'ai joué au tennis, je ne dis pas tous les jours, mais très, très, très souvent. Mais la particularité, c'est que je n'ai jamais pris une leçon à Marrakech, en tout cas. D'accord. C'est quand même curieux, quoi. J'étais un jeune, je passais mon temps au mur à jouer avec les ramasseurs de balles. Il y avait des ramasseurs de balles à l'époque, et les ramasseurs de balles étaient mes copains. Et d'ailleurs, il y en avait trois d'entre eux qui sont devenus vraiment les meilleurs joueurs marocains. Un, Bouchaïb, qui a été champion du Maroc, l'autre a été troisième, et l'autre a été cinquième. Et c'était, voilà, et on a démarré, on était... passer les après-midi sur les cours, personne ne jouait parce qu'on n'avait pas le droit avant l'âge de 12 ans de jouer. Mais comme il faisait très chaud, il n'y avait personne, on jouait quand même. Quoi. Donc voilà, j'allais sur les cours du fond et je jouais. Voilà, c'était ma période au Maroc.
Donc c'était racine, à quel point tu es attaché à ce pays et sa culture et...
Mais j'ai adoré parce que j'ai eu en fait une enfance extraordinaire. Hein. Moi j'avais deux frères, hein. On était trois dans la famille. Trois enfants et j'étais le plus jeune et mes frères et toute la famille jouaient au tennis. Et donc, je passais mon temps au club de tennis. Il n'y avait pas grand-chose à faire à cette époque-là. Hein. C'était les clubs sportifs, c'était là qu'on retrouvait les copains. Donc, tout le monde se retrouvait dans ces clubs-là. Voilà, c'est comme ça. J'ai grandi avec... j'ai beaucoup appris par mimétisme. C'est en regardant mes frères jouer, qui jouaient bien évidemment... mieux que moi, parce que l'un avait 8 ans de plus, l'autre avait 4 années de plus. Et donc, c'est en les regardant jouer avec les meilleurs joueurs du club que j'ai eu envie de progresser. Et j'ai passé un temps fou au mur. On avait un grand mur dans ce club. Et avec les ramasseurs de balles, quand on n'était pas sur les terrains parce qu'il y avait un peu de monde et qu'on risquait de se faire virer, eh bien, on faisait des parties en simple, au mur, on jouait, on avait inventé tous les jeux possibles et imaginables pour jouer au mur. Et quand j'ai débarqué en France, mon père, qui était en fait fonctionnaire, a dû au moment de l'indépendance du Maroc, parce que c'est un protectorat, le Maroc, s'est retrouvé à Rochefort-sur-Mer. Et donc là, je me suis retrouvé, j'ai passé mon bac là-bas. Et j'ai découvert un club de tennis avec vraiment les matchs par équipe, avec les équipes, avec pour moi c'était extraordinaire. Mais comme j'avais un mauvais classement, parce que je venais du Maroc, hein, j'avais un classement qui était insignifiant, ben j'ai tout de suite fait des perfs, j'ai progressé, donc j'ai aimé ça. C'était sympa, mais on n'avait pas beaucoup de... Enfin, on n'avait pas de cours couverts hein, à Rochefort-sur-Mer. On avait juste un hangar qui était en fait aménagé. Il y avait un terrain de tennis où il n'y avait pas de recul. Et donc, je passais vraiment pas mal de temps, au moins deux fois par semaine, où j'allais jouer sur ce cours couvert avec les copains, sans quoi je faisais au lycée du rugby, du handball. J'aimais bien le handball. Voilà, et puis un peu de basket. Puis ensuite, c'est parce que j'aimais bien le sport et le tennis que je me suis orienté vers, après mon bac, le professeur d'éducation physique. Okay. Donc, j'ai fait le professeur d'éducation physique. Et pendant une année, donc, j'ai fait ma préparation au lycée Carnot à Cannes. Et puis, je me suis retrouvé à l'INSEP. Et à cette époque-là, je suis rentré à l'ENSEP. L'ENSEP, c'était l'École normale supérieure d'éducation physique et sportive, où j'ai eu mon diplôme donc, de professeur d'éducation physique en 1973. Et à cette époque-là, Gilles de Kermadec recherchait des gens à la fédération qui avaient un peu mon profil, prof d'éducation physique et puis bon joueur de tennis. Voilà, donc je fais mon service militaire au bataillon de Joinville, formidable, j'ai pu enfin pu jouer au tennis tout le temps. Ouais. Et là, je suis monté en première série, j'ai été un peu sur le circuit. Voilà, c'est là que j'ai eu un peu mon meilleur classement. Puis j'ai eu cette chance de démarrer après avec des très bons joueurs. J'avais une équipe parce que j'avais pas que Yannick, hein, quand j'ai démarré, en fait, j'avais Gilles Moreton, ouais. Gilles Moreton, Pascal Porte et Yannick. Et on n'avait rien comme structure, hein, parce qu'on était, il y avait Jean-Paul Lotte qui était avec Gilles de Kermadec, qui était l'entraîneur national, qui après est devenu le directeur technique. Et Jean-Claude Massias qui avait fait le professeur d'éducation physique aussi, et comme moi, il a été embauché par Gilles de Kermadec. Il a fallu qu'on crée toutes les structures.
Avant de devenir entraîneur, tu prends tes premières leçons, tout ça, et tu rêves de devenir professionnel. Comment s'est fait le cheminement?
En fait, je suis devenu professionnel par hasard. Parce que, en fait, à cette époque-là, le professionnalisme, ça ne voulait rien dire. On gagnait un petit peu d'argent dans les tournois, mais je voulais connaître un petit peu le circuit par rapport à ce que j'envisageais de faire. C'est-à-dire que quand j'ai fait le professeur à l'éducation physique, je savais déjà que M. de Kermadec souhaitait que je vienne travailler à la fédération. Okay. Donc, j'ai fait, en fait, si vous voulez, j'ai fait, appelons ça, le circuit pendant relativement peu de temps. Et j'ai continué à jouer un petit peu avec les joueurs que j'entraînais. J'étais un peu sur le circuit avec eux. Je continuais un peu à jouer dans les tournois qu'ils faisaient. D'ailleurs, c'était super sympa parce que j'avais pu battre à l'époque. Et c'était un peu mon c'est marrant, parce que j'avais battu Yannick à l'époque dans un tournoi, alors que j'étais déjà son entraîneur. C'était le national. Il y avait le national à l'époque. J'avais battu Yannick, qui avait mené 3 fois 4 ans, mais j'avais gagné. Et voilà, donc il s'est bien vengé par la suite, parce que la deuxième fois que je l'ai joué, alors j'avais pris une tannée. Mais bon, ça crée des liens. Et puis ensuite, on a vraiment commencé à travailler plus professionnellement avec ces trois-là. Hein, et puis, on est parti sur le circuit parce que ça a été la transition entre bon junior, parce que j'ai suivi ces gars-là tant qu'ils étaient juniors. Et puis, il fallait faire le lien entre bon junior et professionnel. Donc, on liait les deux. Et puis, je suis parti avec eux sur des longues tournées. Je me souviens d'une tournée en Amérique du Sud avec les trois et ça avait été formidable, sauf qu'ils s'étaient joués tous souvent dans les qualifications et il n'y en avait qu'un qui arrivait dans le tableau final, donc ce n'était pas toujours facile à gérer, mais c'était une expérience extraordinaire.
Juste avant de basculer là-dessus, tu as joué l'Open d'Australie à une époque un peu différente. Est-ce que tu peux nous raconter à quoi ça ressemblait et ce dont tu te souviens?
Alors, c'est vrai que ça n'avait vraiment pas grand-chose à voir avec ce qui existe aujourd'hui. Hein. C'était nettement moins fort, d'autant plus que les tout meilleurs joueurs du monde venaient pas tous parce que c'était long, c'était les voyages et aller jouer d'un coup sur herbe à cette époque-là, c'était compliqué pour beaucoup. Et moi, je me suis retrouvé à l'Open d'Australie, en fait, comme entraîneur plus accompagnateur, disons, d'un groupe de joueurs. C'est-à-dire que j'avais Yannick qui avait, il devait avoir 15 ans, Yannick à l'époque. Et puis j'avais Bedel, j'avais Fries, j'avais Brunet, j'avais 6 joueurs et une joueuse, Brigitte Simon. Et donc, on jouait, on s'entraînait ensemble, chacun jouait. Et donc, moi, j'ai joué avec eux le tournoi. Et le seul qui a bien joué, ben, c'était moi. Et donc, j'avais toute mon équipe qui me suivait, qui était là dans les gradins et qui m'encourageait. Et c'était fantastique parce qu'il y avait, je me souviens, Yannick avec toute la bande là et puis les gens, parce qu'on logeait chez les gens, on n'était pas logé à l'hôtel, on logeait chez l'habitant à cette époque. Et il y avait tout ce petit groupe qui était là-haut, qui étaient les seuls qui m'encourageaient parce qu'après, c'était que des Australiens. Hein, le stade n'était pas complètement plein, mais il y avait du monde. Et donc, ils m'encourageaient. Et je me souviens parce que mon fait d'armes, c'est d'avoir battu un joueur de Coupe Davis australien qui s'appelait Jeff Masters, qui était plus particulièrement un joueur de double. J'avais battu ce gars-là. Mais j'avais été mené 5-3 au cinquième. Et là, je me souviens, les cris d'Yannick et tout le monde. Et j'avais réussi à le battre. Et donc, c'était sympa. Donc, c'était plus, disons, entraîneur, mais accompagnateur de toute cette équipe-là. Parce qu'on voulait, en fait, les amener à jouer davantage sur herbe. C'était leur expérience sur herbe. Et il y avait un circuit où il y avait les tournois de jeunes. Et donc, Yannick faisait les tournois de jeunes. Et il faisait les tournois, ce qu'on appelait les tableaux A, qui étaient un peu comme les qualifications, qui étaient un tableau secondaire. Et donc, ça faisait beaucoup, beaucoup de matchs sur herbe. Et donc, c'était vraiment... Et on avait passé là-bas pratiquement 6 semaines là-bas. Et c'était leur apprendre déjà à vivre à l'étranger, vivre, découvrir le circuit, découvrir que voilà les périodes où il fallait s'entraîner, les périodes où il fallait en tournoi, tous les matchs, la succession des matchs, voilà. C'était vraiment l'idée. C'était Gilles de Kermadec hein, qui avait eu cette idée-là parce qu'il avait fait pareil avec les Goven, Georges Goven, Jean-Baptiste Chanfraud, Patrick Croisy, enfin toute cette génération était partie faire ce même type de circuit. En disant c'est extrêmement formateur pour la suite. D'accord. Mais c'est tout ce que j'ai fait comme circuit. J'en ai pas fait d'autres après. J'ai rien fait quoi. C'était disons un côté professionnel parce que j'ai été au classement professionnel. Ouais. J'ai fait un minimum de tournois quoi.
Et du coup, quand tu étais à l'INSEP et que tu te formais, tu avais déjà dans l'esprit de postuler à la Fédé, d'accompagner à la Fédé, d'être dans un cursus vraiment tennis quoi.
Oui. Oui, en fait, je me suis toujours dit, et c'était un peu les discussions que j'avais eues avec Gilles de Kermadec, il m'avait dit, écoute Patrice, la meilleure formation pour que tu puisses travailler comme entraîneur national, c'est que tu fasses le professeur à l'éducation physique, ça va te donner de bonnes bases, une bonne réflexion d'ensemble, et comme tu as un bon niveau de tennis, tu verras que ça va te faciliter ton travail comme entraîneur national. Et il me dit, en plus, après, tu auras une expérience parce que tu pourras jouer beaucoup en faisant ton service militaire comme au bataillon de Joinville. Et au bataillon de Joinville, à cette époque-là, moi, j'ai dû passer une semaine quoi, à la caserne, c'est tout. Hein. Le reste du temps, on était en tournoi tout le temps. Donc, j'avais amélioré mon niveau de jeu parce que dans les discussions que j'avais pu avoir, et c'était juste avec Georges Degnaud, qui aussi avait été un bon joueur, un joueur de première série, avec Jean-Paul Lotte, qui avait été un très bon joueur, ils m'avaient tous dit, et ça j'y crois vraiment très fort, mais c'est bon d'avoir une expérience, c'est excellent d'avoir une expérience pédagogique, puis une expérience des connaissances que j'ai pu acquérir pendant ces années de formation. Hein. Mais c'était vraiment, c'est important aussi d'avoir un bon niveau de jeu pour pouvoir être en face du joueur et puis vraiment essayer de taper la balle contre lui pour voir un peu comment il réagit, comment on réagit. Donc voilà, moi j'ai toujours essayé d'entretenir mon niveau tennistique quand j'ai entraîné. Pour avoir vraiment sentir, vous savez, quand on est en face du joueur, on sent beaucoup mieux, voilà, ce qui se passe. Et bon, il s'agissait pas qu'il me fasse courir dans tous les sens, bien évidemment. Il jouait sur moi, mais moi, je faisais ce que je voulais. Après, je pouvais vraiment envoyer la balle où je voulais parce que j'avais un niveau correct, quoi. Voilà.
Battre Yannick en tournoi, c'était le meilleur exemple.
Il était tout jeune. Il était tout jeune. Hein. J'ai battu au bon moment. Il était tout jeune.
Du coup, le premier groupe qu'on te confie, t'as quel âge et comment tu vis cette responsabilité-là ?
Alors, quand je rentre à la fédération, il y a zéro structure, rien. Je rentre à la fédération et là, Jean-Paul Lotte et Georges Degnaud entraînent l'équipe A, l'équipe de Coupe Davis, dans lesquelles il y avait encore François Geoffrey, il y avait Patrick Croisy, il y avait Georges Goven, il y avait Chanfraud. Voilà, c'était cette équipe. À ce moment-là, Jean-Paul me dit, bon, ben écoute, tu vas t'occuper de l'équipe B. Dans l'équipe B, il y avait Éric de Blicquer, il y avait Hervé Gauvin, il y avait enfin d'autres, Wanarun Godrella, un black de Nouvelle-Calédonie qui était un personnage extraordinaire. Et puis il y avait des compétitions qui étaient des compétitions comme la Coupe du Roi de Suède, c'était une coupe européenne, on jouait. Une fois par semaine, on allait jouer dans ces pays-là. On jouait en 3 matchs. Il y avait 2 simples, 1 double. Enfin bon, c'était. Et donc, j'avais été capitaine de cette équipe B. Et comme on avait bien joué, la phase finale, tout d'un coup, les meilleurs joueurs voulaient jouer. Alors, on avait dit, il n'est pas question. Nous, on a joué avec notre fameuse équipe B, là. Voilà. Mais on va jouer jusqu'au bout. Et donc, voilà. Donc, c'est un peu la première équipe que j'ai eue. Et ensuite, ces joueurs-là ont continué un petit peu à jouer. Mais on s'est dit, il faut qu'on crée une organisation pour s'occuper des plus jeunes maintenant. Et on a commencé à travailler avec des joueurs qui étaient des, voilà, les joueurs qui quittaient le tennis études de Patrice Beust à Nice. Donc c'était, disons, quasiment fini pour eux le circuit des juniors. Et il fallait faire la transition avec les seniors. Et c'est là que j'ai eu donc des joueurs qui ont quitté Nice, dans lesquels il y avait ben, Yannick, bien sûr, il y avait Gilles Moreton, et il y avait un autre tennis étude qui s'était créé à Bordeaux, et il y avait Pascal Porte, qui jouait très bien, qui était le même niveau. Ils étaient encore juniors, c'était leur dernière année junior, et on a commencé à mixer un peu tournoi junior et tournoi senior. Ce qui a toujours été un petit peu ce que j'ai toujours considéré comme étant essentiel dans la formation des jeunes, c'est-à-dire faire des tournois juniors, non pas uniquement pour gagner des titres, si, quand on peut les gagner, c'est formidable comme expérience de jouer des finales, des demi-finales, mais ça ne doit pas être l'objectif, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre au travers de ces compétitions à aller au bout d'un tournoi, depuis vraiment, voilà, en étant souvent même tête de série, mais d'aller au bout. Et il fallait aussi, pendant ces années-là, démarrer sur le circuit senior pour apprendre ce qu'était la vie sur le circuit senior, la vie d'un joueur professionnel. Et c'était capital de, voilà, qu'ils aient cette façon. Alors, on gagnait en junior, on perdait en senior, mais on apprend. C'est-à-dire que perdre, c'est jamais été un échec. J'ai jamais considéré que perdre, c'était un échec. On est toujours dans une phase d'apprentissage, surtout en plus dans ces années-là. Donc, c'était cet équilibre qu'il fallait trouver. Et ils ont commencé à bien jouer. Puis après, on a été sur le circuit, on faisait des tournées, hein, un peu plus longue dans chaque pays, où après les qualifications, ils ont été dans les tableaux, tout ça. Et puis ces joueurs-là sont arrivés, Yannick à 19 ans avait un très bon classement déjà, je crois qu'à 19 ans, il devait être aux alentours de la 12e place mondiale déjà. Il y avait une différence de niveau entre ces trois-là, parce que Yannick était 12e, Pascal Porte était un peu plus loin, devait être aux alentours de la 40e place, et Gilles Moreton était un peu plus loin, était 60 ou 70. Et là, ça commençait à être un petit peu difficile d'être avec les trois. J'ai toujours adoré, j'ai toujours pensé que le collectif était vraiment une base de travail formidable. Mais quand les niveaux sont très différents, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment fonctionner comme on le souhaiterait avec les joueurs. Ils ne sont pas pris des fois dans les mêmes tournois et ainsi de suite. Ça posait des problèmes. Et là, j'ai été voir Jean-Paul et à la demande de Yannick, et je lui ai dit, écoute Jean-Paul, moi, j'ai Yannick maintenant qui a un niveau, et il faut vraiment maintenant le préparer pour qu'il aille, dans, non seulement qu'il rentre dans les 10 premiers, mais qu'il ait l'ambition, et il l'avait, hein, cette ambition de gagner et d'être dans les 5, puis de gagner un tournoi du Grand Chelem. Je
te coupe avant d'enchaîner sur ce point clé, justement. Tu parlais du sport-études de Nice, qui est un peu la référence, parce que vous preniez les joueurs qui sortaient de Nice, mais c'était la référence parce que c'était le seul. Ou comment il s'était imposé finalement ce, tu vois, pourquoi Yannick l'avait choisi alors qu'il y en avait peut-être d'autres.
Yannick a choisi d'abord cette idée de créer des tennis études, donc qu'on appelle Pôle France aujourd'hui, hein, des tennis études. Ça a été l'idée de Gilles de Kermadec, parce que d'accord, le système scolaire était vraiment voilà, on pouvait pas, on n'avait pas assez de temps pour entraîner les joueurs, quoi. C'était absolument impossible. En plus, après, il fallait partir dans les tournois, donc c'était extrêmement compliqué. Donc, Gilles de Kermadec avait proposé au ministère à l'époque de créer des sports-études, dont tennis-études. Et le premier qui a pu se créer, c'était avec le lycée Parc Impérial, qui était juste à Nice, qui était juste à côté du club de tennis, où il y avait un internat, qui était un internat super. Et le club était juste à côté, donc c'était vraiment facile de passer, voilà, de l'un à l'autre, quoi, de l'internat, les études et le tennis. Et Patrice Beust a fait un boulot formidable là-bas. Et quand donc il a commencé à travailler avec un certain nombre de joueurs, hein, les Bedel, Porte, qui étaient plus âgés qu'Yannick, il y avait avant lui, il y a eu Porte n'était pas à Nice, hein, mais il y a eu Bedel, il y avait Moreton, enfin Jean-Louis Hayet même était à l'époque de Niné Gelaire, enfin, il y a des gars comme ça. Et Yannick a été découvert en fait à Yaoundé quand il y avait un circuit de joueurs professionnels. C'était une tournée qui était organisée par Jack Cramer à l'époque, et il a rencontré Arthur Ashe. Il faisait, voilà. Et c'est en découvrant Yannick, Arthur, qui était très ami avec Philippe Chatrier à l'époque, qui a dit, ben, ce petit gamin-là, il faudrait vraiment qu'il puisse, ben, qu'il puisse progresser davantage, parce qu'à Yaoundé, il n'y a aucune structure, il n'y a rien du tout. Donc, il a demandé à Philippe Chatrier s'il pouvait faire quelque chose pour lui. Et Philippe a demandé à Patrice Beust, et il s'est retrouvé avec Patrice Beust à Nice, en étant très jeune, hein, il avait pas 13 ans encore quand il était là-bas. Et donc, Yannick, entre 13 et 17, a fait un boulot super avec des gars qui étaient un peu plus âgés que lui. Mais je dirais que quand on parle un peu avec Yannick, il vous dit que c'est là qu'il s'est construit, quoi. Parce que déjà, il faut avoir une ambition exceptionnelle pour quitter sa famille, quand en plus la famille est en Afrique, à Yaoundé. Donc, c'est être loin de sa famille quand on est tout jeune et qu'on n'a jamais quitté sa famille. Donc, c'était particulièrement compliqué. Mais heureusement, son papa était quand même un sportif de haut niveau, hein, puisque c'était footballeur. Lui qui a gagné la Coupe de France avec l'équipe de Sedan. Et la maman aussi était quelqu'un qui avait fait beaucoup de basket. Donc, ils étaient très sportifs et ils savaient que si Yannick voulait avoir une chance de vivre son rêve, il fallait qu'il parte en France. Et il y avait Nice, il y avait Philippe Chatrier, il y avait vraiment des gens qui rassuraient. Et Patrice avait rassuré aussi la famille. Les week-ends, il est passé chez Patrice Beust. Et il a grandi là-bas avec vraiment Patrice Beust et la femme de Patrice qui se sont occupés de Yannick comme leur propre enfant. Hein. Donc, ça a été vraiment formidable pour Yannick. Mais il a vécu ces moments-là en disant que ce n'était pas facile parce que les autres étaient plus âgés. Ce n'est jamais facile hein, de faire son trou. Voilà, un petit black qui arrive au milieu des autres. La vie était assez, assez dure. Mais il a toujours pris ça comme vraiment le moyen de se construire, le moyen de s'endurcir. Et quand je parle d'ambition, son ambition et son rêve étaient là. Déjà très tôt, parce que Patrice me disait que très tôt, des fois, quand il rentrait de l'entraînement le soir, il faisait nuit. Yannick n'était pas dans les vestiaires et il se demandait où il était. Bah, il était en train de faire des services encore sur le court à la nuit. Donc, il en faisait tout le temps plus. Et ça a toujours été un peu la caractéristique de Yannick. Il savait que s'il voulait arriver, il fallait qu'il fasse plus. Il fallait qu'il aille plus loin. Voilà. Et s'il faisait, ses parents faisaient ses sacrifices, il faisait ses sacrifices, il fallait qu'il fasse davantage. Voilà, je crois que ça a été très, très formateur pour lui, cette période. Et quand je l'ai récupéré, cet état d'esprit était bien ancré en lui. Et je n'ai jamais eu de soucis, ni avec la famille, parce que moi, je m'entendais très, très bien, hein, puisque j'ai eu cette chance de vraiment d'avoir beaucoup d'affinité avec la maman et le papa. Et le papa d'Yannick m'a toujours dit et répété, il m'a dit, « Pat, fais-le bosser, et fais-le bosser, dur, dur, dur. » C'est la seule chose qu'il m'a dit. Et il avait confiance en moi, comme il avait confiance en Patrice Beust, il avait confiance en Philippe Chatrier. Et cette confiance, elle a toujours été là, quoi. Même encore aujourd'hui, on est encore les meilleurs potes, là, partie de la famille.
Tu récupères Yannick à quel âge et vous restez ensemble?
Donc, je récupère à Yannick, il a 17 ans, voilà. Ouais. Et bon, j'avais fait cette tournée en Australie quand il était plus jeune, parce que des fois, en fait, quand Patrice Beust allait sur des tournois, notamment l'Orange Bowl, ou des tournois comme ça avec des joueurs qui étaient un peu plus âgés, moi j'allais et j'entraînais les autres. Donc je connaissais Yannick puisque j'avais été déjà plusieurs fois à Nice remplacer Patrice. Donc il y avait déjà vraiment une bonne affinité quoi, donc avec ces joueurs-là et Patrice. Donc quand il est arrivé à Paris, c'est là qu'on a créé, à Roland-Garros, où il n'y avait rien du tout. Hein. Roland-Garros, il faut imaginer Roland-Garros, où vraiment, il n'y avait pas de centre d'entraînement, il n'y avait rien du tout. Il y avait deux cours où il y avait une bulle sur ces deux cours, où il y avait un terrain qui était une moquette lisse et un autre cours qui était un Boltex. Un Taraflex. C'était un peu comme les petit cube en plastique qu'on met dans les douches. C'était un truc assez, assez particulier, qui était assez glissant. Et pas de chauffage, rien du tout. Et donc, on se caillait des fois. Là, en hiver, on jouait, mais on se caillait. C'était incroyable. Et donc, c'était notre centre d'entraînement. Et on avait aménagé, il y avait la maison du gardien. Et il y avait une aile de la maison du gardien qu'on avait aménagées en chambres. Et on avait mis dans ces chambres-là, ben, il y avait Yannick, Pascal et Gilles. Et donc, moi, j'arrivais le matin, donc on débarquait, et puis hop, on allait sur les deux bulles, et on faisait nos entraînements là. On se caillait d'ailleurs, parce qu'on arrivait, des fois, j'arrivais assez tôt le matin, et des fois, ils dormaient tous, donc je tapais à la porte pour les réveiller. Enfin, c'était assez drôle. Et donc, on a commencé notre centre d'entraînement de cette manière-là. C'était assez incroyable, parce que je me souviens même en hiver, des fois, quand il y avait un peu de neige dans le bois, je venais taper, il me dit, mais on ne va pas aller courir, il y a de la neige partout. Je dis, ben si, on va aller courir, malgré qu'il y ait de la neige. Ben non, on n'y va pas, mais il s'y allait quand même. Bon, c'était, voilà, ça s'est passé comme ça, c'était notre CNE. On a même fait après, on a regardé où est-ce qu'on pouvait faire une petite salle de gym. Or, il y avait des toilettes sous le central à l'époque, ouais, qui n'étaient pas utilisées, et on a transformé ces toilettes en faisant une petite salle de gym. On avait mis une barre fixe, des haltères, et deux, trois trucs qui étaient notre salle de préparation physique. J'avais fait recruter Frédéric Roche, qui était, lui, champion de France de décathlon, comme préparateur physique, Fred, et qui a travaillé après comme préparateur physique pendant des années, pendant 20 ans à la fédération avec nous, et qui a connu le même histoire que nous, mais qui était le préparateur physique de ce groupe-là. C'était, voilà.
T'as quel âge, toi, à ce moment-là?
On est en 76, 77, là, par là. Donc, ouais, j'ai une trentaine d'années, quoi. Voilà, 31 ans, 32 ans.
Ok. Ce que j'ai lu ensuite, donc, c'est que Jean-Paul Lotte, qui était DTN à l'époque, a voulu donc innover et créer une structure autour de Yannick. C'était la première fois qu'un joueur de la Fédé pouvait bénéficier d'un coach à 100% du temps. Et ça tombe sur toi. Est-ce que c'est une... Enfin, comment s'est fait le rapprochement? Est-ce que tu le vis comme une bénédiction? Quel mot, quel regard tu portes là-dessus?
Non, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que quand Yannick s'est mis à progresser, il y a eu ces différences de classement qui faisaient...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et que je ne pouvais plus m'occuper des trois. Et donc, Yannick m'a dit, Patrice, moi, je ne peux plus travailler avec les autres parce que tu n'es pas assez là. Et moi, j'ai besoin que tu sois là plus souvent. Et donc, j'ai été voir Jean-Paul. Je lui ai dit, Jean-Paul, il faut qu'on arrête là notre système à trois. Ça ne fonctionne plus pour Yannick. Et Yannick aimerait bien continuer avec moi, mais il faut que ça se passe en individuel. Mais là où j'avais un problème, parce que là, si je parle de moi deux secondes, c'est que moi, j'étais prof d'éducation physique. Et à cette époque-là, comme Jean-Claude Massias, j'étais détaché du ministère de l'Éducation nationale pour travailler dans une fédération. C'est ce que le colonel Crespin, à la suite des Jeux de Rome, où les résultats français avaient été catastrophiques, avait décidé de créer un corps de fonctionnaires, hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les CST, les conseillers sportifs, hein, où il y a toute cette histoire. Hein, donc aujourd'hui, il y a 1600 conseillers sportifs qui sont des gens qui sont ou profs d'éducation physique ou maîtres d'éducation physique ou ont passé un diplôme de prof de sport, et on est mis à disposition de nos fédérations. Mais à cette époque-là, moi, j'étais à la fédération, disons, gratos pour la fédération. J'étais payé par l'éducation nationale parce que, en fait, on a été basculé, on est passé de l'éducation nationale après ministère des sports, après ministère d'éducation. Voilà, ça a été des moments où on passait de l'un à l'autre. Mais pendant une dizaine d'années, moi, j'étais donc prof de gym détaché à la Fédération de tennis. Et pour avoir l'accord du ministère, enfin, ministère de l'Éducation nationale, il fallait aller discuter avec le ministre. Et c'est Jean-Paul qui est allé discuter avec le ministre pour dire, là, on a aujourd'hui vraiment un souci, c'est qu'on a besoin de mettre Patrice seul sur Yannick. Ah non, non, le ministère n'est pas question, nous, non, non, c'est pas, c'est, il ne faut pas, il ne voulait pas, et tout le truc. Et Jean-Paul, avec donc Gilles de Kermadec et Philippe Châtrier, ont réussi à obtenir vraiment du ministre, qui était M. Soisson à l'époque, si j'ai bonne mémoire, que je puisse m'occuper d'Yannick seul. Okay. Et c'est assez marrant ce qui s'est passé, c'est que les premiers tournois, Yannick n'avait pas très bien joué. Donc il y avait des critiques là. Et le ministère appelait Jean-Paul Lhote, qu'est-ce qui se passe, regardez, ça ne marche pas, mais nous on a un gars qui est détaché sur une personne. Tu sais, parce que alors là, être un pour un à l'époque, mais c'était inenvisageable quoi. Hein. Il y avait que ça ne se faisait pas quoi. Donc c'était bon. Et Jean-Paul a dit, mais non, on tient, il faut tenir les résultats, ça arrive, vous n'en faites pas, ça va arriver, ils font du bon boulot, c'est sérieux et tout le truc, ça a tenu. Et Yannick a commencé à gagner des tournois. Je me souviens, il avait gagné le tournoi à Memphis ou à Philadelphie, un truc comme ça. Il avait gagné des tournois et puis voilà. Puis il a progressé, il est monté au classement. Donc après, tout allait bien jusqu'au moment où il a gagné Roland-Garros. Alors là, c'était très, très bien que le ministère ait accepté. Voilà, tout le monde était content. Donc voilà. Alors ensuite, ce qui s'est passé, c'est que Yannick gagne à Roland-Garros en 83.
Tout de suite, ne raconte pas tout d'un coup.
Ouais, raconte pas tout d'un coup. D'accord. Donc Yannick a continué à progresser. On est resté bien sûr ensemble. On continue à faire tous ces circuits de tournois. Il n'y avait pas de problème particulier puisqu'il y avait une progression qui faisait que Yannick était dans les 10 premiers, bien installé dans les 10 premiers, gagnait des tournois, tout allait bien. Il n'y avait pas d'inquiétude particulière hein, dans cette période. Et il y avait des moments où Yannick a eu, bien sûr, comme tous les joueurs, des petits soucis, des petites blessures et autres. Mais comme quand il avait des blessures, je travaillais plus avec Yannick pendant ces moments-là. Et j'allais dans les pôles. Et notamment, on avait créé l'INSEP après, où Jean-Claude Massias, lui, avait travaillé à l'INSEP avec des joueurs qui étaient... Henri Lecomte, Guy Forget, tout ça. Et donc, je me suis retrouvé des fois avec Jean-Claude, parce que lui, Jean-Claude, là encore, c'était Jean-Claude Massias avec 7 ou 8 joueurs. Là, ce n'était pas un pour un. C'est qu'il avait tout. Voilà, il y avait un préparateur physique qui était avec Jean-Claude. Et puis, il y avait lui. Après, il y a eu moi qui venais faire des périodes. Puis, de temps en temps, il y avait aussi un autre entraîneur qui venait un peu aider Jean-Claude. Alors, il était ou seul ou à deux. Pour 7 ou 8 joueurs, quoi. Donc, il y avait, et puis c'était des bons joueurs, et à cette époque-là, on avait à l'INS, c'était formidable, mais on n'avait pas, il y avait les cours extérieurs, il y avait pas de bulle, hein. Et il y a eu après une bulle, et on jouait sur le terrain qui était le terrain de basket, donc où ça allait à 15 000. Là, ouais. Alors, les services d'Henri non, c'était pas toujours la joie, mais, c'était une structure qui était intéressante dans la mesure où on avait les études qui étaient aménagées, on avait la possibilité de vivre au contact des autres sportifs de haut niveau, et donc on voyait les athlètes s'entraîner, on avait cette ambiance qui était une ambiance de haut niveau, qui était hyper favorable quoi, pour ces gars-là. Non, si tu discutes avec tous les joueurs qui ont été justement avec Henri, avec Guy et tout ça, ils ont tous que des super souvenirs hein, de cette période-là à l'INSEP.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu la vie sur le circuit avec Yannick, votre pire galère, par exemple, sur un tournoi ou quelques souvenirs qui te reviennent comme ça à la volée?
On a eu forcément des moments qui étaient des moments un petit peu compliqués, bien sûr. Mais à cette époque-là, le circuit, il y avait bien sûr toujours la rivalité hein, entre les joueurs. Mais disons que ça se passait dans une ambiance qui était complètement différente de l'ambiance d'aujourd'hui. C'est qu'il y avait vraiment des liens assez forts. On avait moi, j'avais des copains. Moi, j'avais Yon Thiria, qui était un bon copain. Moi, j'ai pu vraiment discuter avec Yon de Yannick. Il m'a donné des conseils sur l'entraînement. Moi, j'étais assez preneur des conseils des uns et des autres parce que j'avais eu Jean-Paul, bien sûr, qui m'avait aidé, Georges Degnaud. J'avais eu des bonnes bases hein, avec ces gens-là, mais être au contact sur le circuit des joueurs qui entraînaient les meilleurs joueurs du monde, les voir bosser, tout ça, voilà, moi, ça me plaisait. Puis on passait des moments super, parce que Villas, à l'époque, il s'entraînait. Puis lui, alors vraiment, il passait des journées sur le court. Donc, c'était formidable aussi pour moi d'être au contact de ces gars-là. C'était sacré. Et puis, ils sont devenus tous des amis, quoi. Parce que Yannick, en plus, c'est Yannick, quoi, avec son charisme, avec tout ça. Donc, il avait plein de copains. Des copains italiens, des copains argentins, des copains José Luis Clerc, Villas, tous ces gars-là, on était... Et donc, il y avait une espèce d'ambiance qui était une ambiance sympa sur le circuit. Il n'y avait pas encore... l'argent n'avait pas vraiment... Il y en avait très peu à cette époque-là. Les joueurs jouaient un peu pour la gloire, parce qu'il y avait la passion, il y avait la gloire. Il y avait, bien sûr, un peu d'argent, hein, quand même. Il ne faut pas le nier. Et puis, il y avait des contrats. C'était le début. Puis, il y a eu Borg qui a fait que commençait à y avoir un peu plus d'argent pour les meilleurs uniquement, parce que le circuit n'avait rien à voir avec le circuit d'aujourd'hui. Hein. Disons qu'il y avait, en gros, il devait peut-être y avoir 500-600 joueurs. Donc, il faudrait, je ne sais pas, peut-être un peu plus, 800 joueurs sur le circuit. Maintenant, il doit y avoir 2500 ou je ne sais pas combien. Mais et il y avait, disons... Vraiment une grosse différence entre les meilleurs et les autres. Ouais. Donc, quand on était, les joueurs étaient, disons, généralement tranquilles sur les deux, trois premiers tours dans les tournois du Grand Chelem. Ça commençait à être plus difficile et les meilleurs se retrouvaient. C'était les 16 derniers, quoi, à partir des quarts ou des huitièmes. Voilà, on retrouvait toujours un peu les mêmes. Mais donc, moi, j'étais content de voir et de vivre un peu ce climat-là, qui était un climat sympa. Il y avait une bonne ambiance entre les joueurs français, mais il y avait tous ces joueurs étrangers, vraiment, qui étaient des potes, quoi. C'était chouette. Il y avait cette rivalité qui était plus importante quand il y avait les Coupes Davis. Quand il y avait les Coupes Davis, c'était chaud. C'était très, très chaud. Parce que c'était l'époque où, je ne sais pas si vous connaissez un peu toutes les histoires, où c'était... Il y avait des pays qui ne connaissaient pas, qui n'avaient aucune culture tennistique. Quand on se trouvait dans ces pays-là, c'était plus, je dirais, les gens qui venaient du foot ou de... Voilà, qui venaient et qui avaient la même attitude qu'au foot, quoi. Et donc, je me souviens de rencontres de Coupe Davis qu'on a eues là-bas, mais c'était la guerre, quoi. C'était... Et en même temps, ça, c'était formidable. C'était formidable. On sortait de là, quand on avait gagné à l'étranger... On était les champions du monde, quoi. C'était fabuleux. Mais c'était... voilà. Donc, quand on était dans ces pays, quand on jouait en Italie, c'était très difficile aussi. Mais des fois, il y avait aussi un peu de difficulté quand on jouait les tournois du Grand Chelem ou les autres tournois. C'est-à-dire que quand ils venaient en France, c'était chaud. Mais quand on allait jouer en Italie, qu'on allait jouer le tournoi en Argentine ou autre, quand on jouait contre les joueurs argentins, bah, c'était chaud aussi. Donc, il y avait... Ces ambiances de match qui étaient formidables, parce qu'en même temps, c'était hyper formateur, parce qu'il fallait essayer de rester dans sa bulle, essayer de rester concentré, sans quoi on perdait, hein, parce que quand on a tout un pays contre soi, c'est pas toujours facile, mais c'était, voilà. Et ça, cette ambiance de tournoi et de Coupe Davis n'était pas forcément l'ambiance qu'on retrouvait sur le circuit, où tous ces... Bon, les joueurs étaient tous potes, parce que des fois même, il s'est passé des choses incroyables. On a eu des tensions, je me rappelle, au Paraguay, il y avait des tensions énormes, même des bagarres avec le public. Hein. Moi, je me suis trouvé confronté à une bagarre là-dedans. Vraiment, c'était un truc de fou. Mais après coup, bah, les joueurs ne s'en voulaient pas les uns les autres. Quoi. C'était le contexte qui faisait qu'il y avait cette folie du moment. Voilà. Mais il y avait cette espèce d'état d'esprit qui s'est un peu perdu. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ben oui, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, il y a plus d'argent, il y a un peu des clans qui sont formés autour des joueurs, quoi, avec le préparateur physique, l'entraîneur, le préparateur mental, l'agent, le kiné, voilà, il y a des fois, autour d'un joueur, il y a toute une troupe, et donc quand ils déjeunent tous ensemble, et puis voilà, donc des fois, voilà, ça a vraiment... un petit peu changé, alors qu'à l'époque, des fois, les joueurs bouffaient entre eux, nous, on était avec les entraîneurs ensemble, on discutait, on se racontait nos histoires, et donc, c'était très, très différent, cette vie sur le circuit.
Le joueur qui te faisait le plus rire à l'époque, c'était lequel?
Nastase. Nastase, qui des fois a dépassé un peu les bornes, mais qu'est-ce qui m'a fait rire, Nastase? Alors vraiment, c'était un gars, mais il faisait rire, mais il était drôle naturellement, mais des fois, c'était un peu énorme, mais il jouait, parce qu'en plus, il jouait tellement bien au tennis, c'était absolument incroyable, il avait un talent fou, et en même temps, il se moquait un peu tout le monde. Mais tout le monde l'avait à la bonne, sauf quelques-uns. De temps en temps, il y a eu des tensions. Hein. Bob Hewitt avec lui, ils sont un peu coltinés dans les vestiaires. Il y a eu de temps en temps quelques... Voilà, parce qu'il se foutait un peu de la gueule de tout le monde, mais voilà, il n'était pas méchant. Mais il aimait bien voilà, un peu chambrer les gens. Et des fois, il allait un petit peu trop loin. Et puis après, d'ailleurs, dans la suite, on sait ce qui s'est passé. Nastase, il a toujours eu un peu tendance à déraper. Mais dans cette période-là, bon... Généralement, ça allait, sauf avec certains.
Le joueur que tu trouvais vraiment le plus talentueux, le plus doué?
Celui que j'ai trouvé le plus doué de tous, c'est McEnroe. J'ai trouvé McEnroe, c'était un génie. C'était un génie, en plus, comme il avait un jeu d'attaquant. Pour moi, la magie, c'était justement d'arriver des fois, mais... On avait l'impression qu'il poussait la balle, il arrivait à la volée, mais il aspirait la balle à lui. Et il arrivait à faire des volées amorties, des volées trucs dans des positions acrobatiques, des trucs absolument invraisemblables. Il avait cette espèce de manière de jouer qui était tout à fait particulière, mais c'était un vrai magicien. Et il enflammait les foules, parce que c'était incroyable de voir quelqu'un jouer comme ça. On avait l'impression qu'il était, il avait une adresse diabolique. Et puis, il avait ce côté, une personnalité qui était particulière, qui était, bon, les gens, il y a les gens qui ne l'aimaient pas trop et tout ça, mais il laissait personne indifférent. Alors, il avait ses coups de gueule, il avait tout ça, mais jamais insultant. Hein. De temps en temps, il se moquait un peu de l'arbitre et tout ça, et les attitudes. Mais un magicien sur le court. Alors moi, j'ai vu des fois des choses absolument invraisemblables. Et je lui dis, quand il était, voilà, quand il approchait vers le filet, cette façon de paralyser l'adversaire et d'attirer la balle à lui, on avait l'impression que voilà, c'était un jeu téléguidé, quoi. C'était fou. Ouais.
Le malade mental de la préparation physique, à cette époque-là, c'était qui ?
Yannick était assez extraordinaire hein, comme bosseur sur le plan physique. Et d'ailleurs, je dirais qu'à chaque fois, il avait ce côté, quand il faisait des footings, faisait des sprints, faisait tout ça, il ne supportait pas d'être deuxième. Quoi. Il ne supportait pas. Il avait cette espèce d'esprit de compétition, d'aller au bout, tout le temps. C'est le côté que j'avais, moi, développé au maximum, parce qu'on ne pouvait pas dire que sur le plan facilité gestuelle, Yannick était aussi doué que certains, bien sûr. Mais par contre, son physique était extraordinaire. C'était un monstre physiquement. Il avait une détente. Il était très, très difficile à lober, Yannick. Hein. Il sautait. Je dirais, c'était incroyable comment il sautait. Et donc, il travaillait. À chaque fois, quand il travaillait, mais là, ce n'est pas moi qui le dis uniquement, hein, quand vous parlez avec tous les gars qui se sont entraînés avec lui, hein, c'est incroyable, incroyable. D'ailleurs, quand il a l'année où il gagne Roland, c'est les 15 jours, disons, qu'on a fait avant Roland, c'était invraisemblable. Moi, à cette époque-là, quand ma balle, j'arrivais plus à suffisamment voyer les balles pour faire cavaler Yannick au maximum, j'utilisais un gros panier de balles. Et là, j'envoyais des balles tout azimut à Yannick. Vraiment des balles très difficiles à récupérer pour essayer d'aller à la limite de ce qu'il était capable de faire. Essayer de reproduire dans la difficulté ce qui pouvait être en match. Essayer vraiment de l'habituer à frapper des coups dans la difficulté et puis les mettre en trouvant de la précision. Donc, j'avais fait faire un travail énorme. Et il rentrait, quand on rentrait chez lui, hein, on était à Nainville, à l'extérieur de Paris, il partait courir avec ses chiens encore une heure. Et quand il revenait, il faisait des étirements. Et ensuite, il faisait un petit sauna et hop, il allait se coucher. Il était bien cuit. Et à certains moments, il y a eu Jean-Claude Perrin qui est venu le faire travailler encore un peu plus dans ce même esprit. On connaît tous Jean-Claude Perrin qui était vraiment un gars qui poussait les athlètes qu'il avait à la limite, quoi. Et donc, c'est la seule fois de ma vie où le dimanche donc, qui précédait Roland, quand il y a la conférence de presse, parce qu'on s'était protégé, on ne voulait pas que la presse sache où on était, tout le truc, donc on avait pu se mettre à l'écart, parce qu'il faut se remettre dans le contexte à l'époque. Hein. Personne, je veux dire, Yannick, c'était le charisme, bien sûr, puis sa personnalité, les dreadlocks, le mec grand, beau gosse, tout ça, donc il avait la cote, quoi. Et il y avait peu de champions comme lui à l'époque. Hein. Il y avait Alain Prost, il y avait Fignon, il y avait Bernard Hinault, il y avait... Ils étaient 4 ou 5, quoi, c'est tout. Et donc, forcément, il était... et moi, je ne voulais pas qu'il soit sollicité, donc on s'était mis à l'écart. Personne ne savait où on était. Tout le monde nous cherchait, donc ça a bien marché. Mais il a bossé, et donc le dimanche, j'ai dit... Celui qui va battre Yannick, il va falloir qu'il soit fort. Parce que j'ai jamais vu un athlète comme ça au maximum de sa forme physique. Il faisait des choses absolument incroyables sur le terrain. Moi, avec mon panier, je lui faisais faire des volées basses là, qu'il arrivait à jouer en faisant des volées amorties, croisées. Donc, il était très près du filet. Et puis, très vite derrière, je faisais des lobes. Donc, il partait avec ses grandes jambes, il se mâchait, tac, il revenait, il faisait des volées. C'était incroyable. Et puis... Donc, j'arrêtais au bout d'un certain nombre de balles quand je voyais que ça faiblissait un peu. Et là, c'est lui qui me relançait. Il me disait, mais envoie-moi plus dur, envoie-moi des balles plus hautes, plus dur, plus fort. Et il a fallu que je le freine à certains moments. Je lui dis, non, Yann, stop, parce que là, on va vers les blessures. Ouais, dernière série. Non, je dis, stop. Dernière série. Alors, je faisais une dernière série, mais pas trop comme il voulait, parce que j'avais peur que d'une chose, c'était de la blessure, quoi. Et c'était fou. Il dépassait toutes les limites que je pouvais avoir en tête, quoi. Et c'était ça l'idée. C'était vraiment d'être capable de se dépasser, d'aller au bout de ses possibilités, quoi.
Tu dis dans plusieurs articles et interviews que cette préparation a duré 6 semaines. Si elle a duré 6 semaines, c'est que vous avez dû faire l'impasse sur certains tournois. Vous vous êtes dédié à ça. C'était quoi l'idée de ce bloc vraiment de 6 semaines?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout a démarré après le tournoi de Monte-Carlo, où Yannick avait mal joué à Monte-Carlo, vraiment mal joué. Et j'étais pas content de sa prestation, j'étais déçu et je me disais dans ma tête là, c'est une des rares fois, hein, ça m'est arrivé quelques fois hein, avec Yannick, mais là c'est une des rares fois où je me disais c'est pas possible. Il y a Roland Garros dans 6 semaines, là, et il est comme ça. Mais c'est pas lui, quoi. C'est pas lui. Et donc, on a une discussion où je lui dis, j'ai une discussion avec lui, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux ? Je veux dire, ton rêve, ça a toujours été de gagner Roland, mais attends, c'est pas en faisant ça, quoi. C'est pas en faisant ça. Donc, qu'est-ce que tu veux ? Tu veux gagner ? Si tu veux vraiment gagner Roland, mais il faut que tu ailles vraiment, mais au bout de toi-même, mais tout le temps, chaque jour. Donc on va faire un programme, tournoi, entraînement, on va le faire ensemble, mais tu vas te l'imposer tous les jours. Et donc, dans ce programme, il y avait un certain nombre de tournois qu'il fallait qu'il fasse, s'il fallait, on était sur la saison sur terre battue, hein, il n'y avait pas bien joué à Monte-Carlo, mais il y avait encore Madrid, Barcelone, Hambourg, enfin il y avait tous ces tournois qu'il fallait faire. Et donc, à partir de là, je lui dis « Tu veux ?» Et il me dit « Ouais, je veux ». Et il a, tous les jours, il a fait son programme, mais à fond. Et il a commencé à bien jouer, il a gagné 2 tournois, il a fait une finale au 3e. Et il y a un tournoi où, je me souviens, c'était le tournoi de Hambourg. C'était presque sur la fin. Et là, Hambourg, il me dit « Bon, écoute, je crois que j'ai assez joué et tout le truc ». Je dis « Non, on va le faire, Hambourg ». On va le faire parce que c'est dans notre programme. Et moi, je pense que c'est important que tu fasses tous ces tournois. Là, ça fait trop de semaines sans tournoi avant Roland. Donc, on avait bien discuté de tout ça. Donc, Hambourg, il faut le faire. Donc, on y va. Et je me souviendrai toujours, il joue contre Fibac. Non, ce n'est pas Fibac, c'est un joueur espagnol. C'était, je ne sais plus, son nom va me revenir. Au premier tour, il joue. Il faisait mauvais, il faisait un peu froid, il pleuviotait un petit peu. Il perd le tie-break du premier set. Le match est arrêté par la nuit, par la pluie. Là, on sort du court, on se retrouve dans les vestiaires. Et là, il me dit, tu vois, on n'aurait pas dû venir là. C'est nul, il fait mauvais, il fait froid. Les terrains ne sont pas pareils. Et là, je me souviens bien, je lui dis, écoute Yann, tu savais tout ça. Tu savais qu'il y avait des moments qui allaient être plus difficiles que d'autres, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est pas possible, parce que tu as un set dans la vue, que tu puisses à un moment donné lâcher. C'est pas vrai, c'est pas toi, quoi. C'est pas après tout ce que tu as fait. Tout ça, c'est pas possible. Donc, voilà un peu l'esprit de la discussion qu'on a. Il a gagné le tournoi. Et il a gagné le tournoi en battant en plus Vilander, ce qui était vraiment important, et José Higueras en finale. Et là, je pense que c'est quelque chose qui était important, vraiment pour lui, de faire l'effort, malgré la difficulté, et d'aller au bout du tournoi. Et je pense que voilà, toutes ces petites, disons, ces épreuves, ces moments un peu difficiles, ça contribue à former le joueur, ça contribue à le renforcer. Et Yannick, j'ai senti que voilà, il s'armait progressivement sur tous les plans. Là, on est, c'est pour gagner. Moi, je dis toujours ça, vous m'avez peut-être entendu le dire, il n'y a pas que moi qui le dis, mais il faut plusieurs choses. Hein. On joue avec son corps, on gagne avec sa tête et son cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? On joue avec son corps, ça veut dire qu'on joue avec son physique et sa technique. Après, on joue avec son mental, c'est tous les aspects mentaux, des aspects tactiques, tout ça. Et on joue avec son cœur, le cœur, c'est les émotions. Et on sait bien que la différence, elle se fait souvent à ce niveau-là, au niveau des émotions. Et si on commence à avoir des émotions, à être envahi par des émotions négatives, comme la peur, la frustration, la colère, enfin toutes ces émotions négatives qui vous minent, ben, vous avez beau avoir bossé comme un dingue, des heures et des heures, des jours et des jours, mais si vous n'êtes pas formé, blindé à ce niveau-là, ben, vous n'y arrivez pas. Donc, il faut avoir conscience que c'est avec ça qu'on gagne. C'est avec ça. Alors, vous avez tous les mots, avec ses tripes, avec son cœur, avec son... Voilà, tout ça, il y a des joueurs qui se frappent le cœur et tout le truc. Mais ça vient de là. Et il faut être capable, justement, de transformer ça. C'est-à-dire, quand on arrive, par exemple, un exemple, vous arrivez sur le central de Roland-Garros. Les titres, l'équipe, 50 millions de noix, tout ça. Bon, vous arrivez, soit vous arrivez et vous êtes envahi par la peur, paralysé par la peur et tout le truc, soit vous êtes transcendé. Vous êtes transcendé, vous avez le public, c'est votre meilleur allié. Ils sont là pour vous, ils sont là pour vous encourager. Vous êtes mort, mais ils vous réveillent. Donc, c'est transformer cette peur qu'on peut avoir en positif derrière. Et donc, tout ça, Yannick, il maîtrisait ça. Et il avait conscience de ça. Et quand il jouait les finales, déjà, Yannick, il savait que ces finales-là, parce qu'il y avait son côté beau gosse, charismatique et autres, le public aimait, parce qu'il avait un peu ce côté générosité que les gens aimaient, Yannick. Et donc, il encourageait, voilà, c'était super. Un peu partout, d'ailleurs, quand j'étais en Australie, ils encourageaient Yannick. Les gens aimaient bien le personnage, parce qu'il était entier. Alors, il y avait des fois, il avait dit un certain nombre de trucs qu'il n'aurait pas dû dire, mais les gens l'aimaient. Et quand il était sur le court, ben, c'était le plus, quoi. Il y avait ce public-là, l'encourage. Donc, toutes ces émotions lui donnaient plus de force, lui donnaient plus de courage. Et donc, ça... C'est essentiel. Et je pense que Yannick, il s'est construit petit à petit là-dedans. Son père a eu, bien sûr, une influence au départ, puis beaucoup de gens autour, beaucoup, je pense, bien sûr, tous les entraîneurs, les préparateurs physiques qu'il a eus, Arthur Ashe était un modèle, a toujours été un modèle pour Yannick. C'était quelqu'un, moi j'ai assisté deux, trois fois à des discussions, je ne disais pas un mot, je buvais les paroles d'Arthur Ashe. j'avais pas toujours, à cette époque-là, je parlais un peu moins bien l'anglais, j'arrivais pas toujours à bien comprendre, mais je voyais à son intonation, à sa démarche, que Yannick, il ne disait pas un mot, il était hypnotisé par le personnage. Il y avait beaucoup de choses entre eux, profondes, sincères. Et ça a toujours été un vrai modèle pour Yannick. Il l'a aidé d'une façon considérable. Son agent de l'époque, là, c'était un type qui s'appelle Donald Dell, qui avait créé une boîte qui était concurrentielle de McCormack à l'époque. Il gérait, c'était l'agent de Michael Jordan. Il avait fait rencontrer Michael Jordan à Yannick, qui adorait déjà le basket. Et donc, bon. Et c'était un type qui avait été conseiller de Kennedy. C'était un type qui était très intelligent, qui était... moi, ça a été un très bon conseiller, Donald Dell. Souvent, quand on a eu des moments difficiles avec Yannick, je le rencontrais ou il m'appelait et il me disait « Mais attends, t'en fais pas, les choses vont revenir. » Enfin bon, il avait le bon discours. Et je crois que c'est tout un ensemble de personnes qui ont fait que Yannick est devenu vraiment quelqu'un qui a été non seulement un très très bon champion, bien sûr, mais quelqu'un qui ensuite a pu transmettre. Il a pu transmettre parce qu'il a bien analysé tout ce qui était, tout ce qui lui avait permis d'accéder au niveau qu'il a eu et puis d'être la personne qu'il est devenu, en fait, quelque part. Parce que Yannick a toujours dit quelque chose quand même de très, très intéressant, c'est qu'il a dit « la victoire est importante, mais ce qui est encore plus important que la victoire, c'est ce qu'on en fait ». Et ça, c'est très, très juste, ça. C'est pas parce que vous allez gagner des tournois que vous allez être bien dans votre peau, déjà, et puis bien après. C'est bien, on est heureux, c'est un moment, on a une belle coupe, et ça, mais moi, ce que j'ai aimé, justement, c'est que Yannick, il a fait de sa victoire quelque chose qui lui a été utile pour ensuite être capitaine, par exemple, ou bien d'aider Amélie Mauresmo ou d'autres joueurs, bien sûr, tout ça. Et le regret que j'ai, c'est qu'il y en a beaucoup qui n'en ont pas profité suffisamment. Parce que les choses évoluent aujourd'hui, parce que les joueurs ne sont plus comme étaient les anciens. Ils ont tendance, il y en a certains qui ont tendance à tout, à croire qu'ils savent tout. Donc, ou qui se protègent, ou aller savoir les raisons. Et il a transmis ça à des gens comme Guy, notamment, Guy Forget, qui a eu un peu le même état d'esprit qu'Yannick et qui a su transmettre après les choses. Et puis, et puis d'autres, quoi. Et moi, je pense que c'est ça qui est important, en fait, pour un champion. C'est en même temps qu'on devient champion, c'est d'apprendre de cette vie champion pour pouvoir donner aux autres, pour pouvoir avoir cette générosité d'apporter. Voilà, je parle trop, non ?
Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette première partie avec Patrice. Tu peux vraiment nous rendre service en partageant tout de suite l'épisode à deux potes à toi et en inscrivant tes amis directement sur leur téléphone parce que le bouche à oreille fonctionne à merveille. Pense à nous mettre 5 étoiles et un commentaire sympa sur Apple Podcast. C'est la plateforme numéro 1 pour nous aider à faire connaître la chaîne et avoir des invités qui nous font rêver. Tu peux aussi faire une story Instagram en taquant le compte Tennis Légende lorsque tu découvres un nouvel épisode. On te repostera illico. Avec Johan, le fondateur de Tennis Légende, on a aussi mis en place un compte Tipeee. Si tu veux nous soutenir, entre la préparation, le tournage, le montage et la diffusion, chaque épisode représente environ 10 heures de travail. Tu peux nous encourager donc à tout donner chaque semaine à hauteur de 2€, soit un café par mois, ou plus si le cœur t'en dit. Le lien pour y accéder est dans la description de l'épisode. Enfin, pour finir, si t'es pas au courant, on fait des t-shirts légendaires que tu peux trouver sur notre boutique en ligne, boutique.tennislegende.fr. T'as le lien également dans la description, juste en dessous. Voilà, c'est tout pour cette semaine, et on se retrouve mardi prochain. Profitez bien de la fin de Roland, et à très vite. Ciao.
Thank you. Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.